Saviez-vous qu'au Québec, une personne sur quatre agit comme personne proche aidante? Ça représente plus de 2 millions de citoyens qui, chaque jour, soutiennent un proche. Plus impressionnant encore, ces soins invisibles représentent près de 85 % de l'aide apportée à domicile dans notre société. Aujourd'hui, on s'arrête pour en discuter avec le regroupement des personnes aidantes de Lotbinière. Ici Véronique, bienvenue à Éco-Social. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisserai vous présenter en commençant, si ça vous convient.
Bonjour, mon nom est Catherine Martel. Je suis directrice générale du regroupement des personnes aidantes de Lotbinière.
Bienvenue, Catherine.
Bonjour, moi c'est Julie Toutant. Je suis intervenante psychosociale et adjointe à la direction au regroupement des personnes aidantes de Lotbinière.
Bienvenue, Julie.
Merci.
Bonjour, mon nom c'est Lucie Nadeau. Je suis une ex-aidante. J'ai été aidante de mon conjoint, Raoul, qui souffrait d'emphysème. Alors, il a été malade pendant 13 ans. J'ai pris soin de lui à la maison. Ces gens-là, quand ils ont cette maladie-là, n'ont pas nécessairement besoin d'aller en CHSLD. Ils sont encore un peu mobiles, là. Alors, mais ça fait rien. On fait tout. Pour lui, là, Et je siège sur le conseil d'administration du regroupement des personnes aidantes.
Bienvenue, Lucie. Pouvez-vous nous présenter un peu votre rôle au sein de l'organisme puis nous dire ce qui vous a attiré finalement vers la cause des personnes proches aidantes?
Mon rôle au sein de l'organisme, en fait, comme intervenante psychosociale, c'est tout à fait de faire de l'intervention, autant individuelle que de groupe, mais j'ai aussi tout le volet vie associative, c'est-à-dire que je prépare et j'organise le calendrier d'activités annuelles. Donc, à chaque mois, au regroupement, on a des activités pour nos membres et on leur présente une offre de service là, annuelle qu'ils reçoivent par la poste. Donc, je suis responsable de ce volet-là. Et qu'est-ce qui m'a attirée au regroupement? En fait, ça fait 10 ans que je travaille au regroupement cette année, en fait, la semaine prochaine. Oh. Et ce qui m'a attirée au regroupement, c'est d'abord la vocation communautaire, parce que depuis 2010, je travaille dans différents organismes de la MRC de Lotbinière, mais aussi le volet proche aidance particulièrement, parce que j'ai un frère handicapé. Et j'ai aussi grandi dans un milieu où j'avais des proches atteints de troubles de santé mentale. Donc, déjà jeune, j'étais sensibilisée à la cause de prendre soin. Donc, quand j'ai postulé au regroupement des personnes aidantes de Lotbinière en 2016, j'étais déjà sensibilisée à la réalité de ce qu'est prendre soin. Donc, c'était plus facile pour moi aussi de comprendre la réalité des proches aidants.
Si je peux poursuivre, en fait, au niveau... ce qu'on fait au regroupement, c'est vraiment de l'intervention, et ce, peu importe l'âge ou même la condition de santé de la personne aidée. Donc, on les accueille, on les soutient, on les écoute, puis on va aussi les orienter vers les ressources appropriées en fonction de leurs besoins respectifs. Puis moi, ce qui m'a attirée vraiment dans cette cause-là, c'est oui, ma fibre communautaire que j'ai tatouée sur le cœur depuis 20 quelques années. Puis je pense que c'est vraiment l'importance de reconnaître ce rôle-là indispensable dans la société.
De mon côté, oui. Ayant été aidante, quand on a beaucoup reçu, moi je trouve qu'on a envie de contribuer à la continuité d'un tel regroupement qui nous a beaucoup donné.
Comment est né le regroupement? Quel besoin avait été identifié finalement dans la MRC à l'époque?
Je peux en parler puisque j'ai travaillé avec la personne qui est à l'origine d'avoir trouvé des personnes qui étaient justement dans le besoin et qui étaient aidantes. Mais tout à fait par hasard, puisqu'elle animait des cellules santé dans les cuisines dans les années 75-80.
OK.
Et puis, les besoins qu'elle a rencontrés, non seulement ces personnes-là avaient besoin de savoir, bon, comment faire des pansements ou encore les cellules santé ou comment régler des problèmes de santé, ces personnes-là avaient besoin d'être soutenues parce qu'elles prenaient soin. Elles avaient besoin d'être reconnues. Elles avaient besoin d'en parler avec d'autres. Elles avaient besoin de partager ce qu'elles vivaient et de là est né le fait de les regrouper.
OK. C'est quoi la mission fondamentale qui vous anime au quotidien?
En fait, comme disait Catherine tantôt, la mission première de l'organisme, c'est de soutenir les personnes proches aidantes en leur donnant accès à de l'information, des services adaptés à leurs différents besoins. Donc, quand un proche aidant arrive dans nos bureaux, ben, on l'accueille dans toute son authenticité, dans tout ce qu'il a à nous raconter, on l'informe, on le soutient, on l'accompagne. Et c'est important de dire qu'au regroupement, on accompagne toutes les personnes proches aidantes, peu importe de qui ils prennent soin, peu importe l'âge de l'aidant et peu importe l'âge de l'aidé. Donc, ça, c'est important aussi de le mentionner parce qu'on peut avoir la croyance qu'une personne proche aidante, c'est un aîné. Mm-hmm. Et pourtant, non. Il peut avoir 12 ans, il peut avoir 25 ans, il peut prendre soin d'un frère, d'un conjoint, de sa fille. Donc, ça, c'est important de démystifier ça aussi. Donc, et quand on prend soin d'un proche aidant par ricochet, bien, on prend soin de l'aider par le fait même, parce qu'un proche aidant qui va bien, c'est un aidé qui va bien aussi.
Ouais.
Donc, au regroupement, on accueille les personnes proches aidantes dans tout ce qu'ils sont.
C'est intéressant que tu parles de l'âge des personnes aidantes. Je me demandais justement comment vous définissez une personne aidante aujourd'hui.
En fait, il y a maintenant une définition hein, qui est ensachée dans une loi que le gouvernement a mis en place, une loi pour mieux soutenir les personnes proches aidantes. Et pour savoir de qui on parle, ils en ont fait une définition que je vais vous lire, en fait. Donc, une personne proche aidante, c'est toute personne, en fait, qui, de façon continue ou occasionnelle, va apporter un soutien significatif à un membre de son entourage. Et ce membre de son entourage-là présente une incapacité temporaire ou encore permanente et avec qui, puis là, je le mets en surbrillance, cette personne-là, il partage un lien affectif avec la personne proche aidante, qu'il soit un lien familial ou non. Donc, ça sous-entend que ça pourrait être un voisin, un ami, un conjoint, etc. Le soutien est offert à titre non professionnel, dans un cadre informel et sans égard à l'âge, au milieu de vie ou à la nature de l'incapacité du membre de l'entourage. Et l'incapacité peut être physique, psychique, psychosocial ou autre. Puis bien entendu, ça va prendre différentes formes. Donc, par exemple, l'accompagner en offrant du transport, de l'aide aux soins personnels, des travaux domestiques ou encore un soutien émotionnel et ou l'organisation des soins, en fait, que la personne aidée a besoin.
OK. Fait que ça regroupe quand même beaucoup de gens.
Ça regroupe, en fait, énormément de gens. Une personne sur quatre est proche aidante au Québec, là.
Ah,
donc, entre nous, là...
Oui, c'est ça, ouais. Il y a au moins une personne. Est-ce que le profil des personnes aidantes a changé dans les dernières années? Est-ce qu'on voit, par exemple, des jeunes, des hommes s'impliquer dans la région de Lebinière?
C'est intéressant comme question parce que ce qu'on a remarqué au regroupement, c'est le profil des personnes proches aidantes qui a changé, qui demande de l'aide, en fait. En raison aussi du discours, tu sais, Catherine l'a mentionné, il y a une loi qui a été adoptée en 2021. Il y a un discours politique et social qui a beaucoup changé dans les dernières années, malheureusement en raison de la pandémie. Ce qui fait que maintenant, il y a beaucoup plus aussi de publicité dans les médias, à la radio, sur les réseaux sociaux. Donc ça permet une reconnaissance de plus en plus de personnes proches aidantes. Avant, au regroupement, on voyait beaucoup plus, comme je disais tantôt, des personnes aînées qui venaient à la demande d'aide, 65, 70, 75 ans, qui prenaient soin de leurs conjoints, surtout aussi. Et maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est vraiment la pluralité des visages de la proche aidance et la reconnaissance de ceux-ci. Tu parles de proches aidants hommes. Il faut savoir que 43 % des proches aidants sont des hommes. C'est étonnant quand même comme statistique, mais il faut quand même le dire parce qu'on pourrait se dire oh, « les hommes, ça prend pas soin ». C'est pas vrai. On n'entend pas assez parler, mais oui, les hommes prennent soin de leurs enfants, prennent soin de leurs femmes. Et au regroupement, on en voit de plus en plus. C'est pas une majorité. On a une majorité de femmes qui demandent de l'aide, mais ça, c'est typique de la femme, de demander de l'aide. Mais tu sais, on a quand même un rapport, là, quand même, je te dirais, 75-25, là, 75 % femmes, 25 % hommes qui demandent de plus en plus d'aide. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ce qu'on remarque de plus en plus aussi avec la possibilité de financement, donc d'engager plus d'employés, donc plus heures terrain. On peut aller dans les milieux dans lesquels on n'allait pas avant. Donc maintenant, on va dans les écoles, okay. On va dans les entreprises, on fait de plus en plus de tournées de sensibilisation, ce qui fait que là, les parents se reconnaissent, les jeunes se reconnaissent, les employés se reconnaissent. Donc, au regroupement, on voit de plus en plus, effectivement, c'est le visage qui change. Oui. Fait que ça, c'est vraiment intéressant.
Oui, vraiment.
C'est de plus en plus de travail, par exemple, mais oui. C'est vraiment intéressant de voir que ça change et que les gens se reconnaissent de plus en plus.
OK. Merci beaucoup. C'est quoi les particularités ou les défis spécifiques d'une personne aidante ici, dans le Binière, vu qu'on est dans un territoire qui est plus rural?
C'est sûr que ça va modifier un petit peu le parcours d'une personne proche aidante quand on se retrouve dans un milieu rural versus un milieu plus urbain. Dans le fond, ce qu'on remarque, c'est l'éloignement des services. Hein. Les services ne sont pas dans notre rue ou même dans notre municipalité. On a la nécessité d'avoir un transport pour y avoir accès. Même l'accès est limité là, par rapport aux ressources en santé et services sociaux. Hein. On n'a pas d'hôpital sur notre MRC. Et il y a quelque chose de très, très important aussi qu'on remarque, c'est l'isolement géographique, en fait, qui peut vraiment rendre ce rôle-là très exigeant.
OK.
On a remarqué aussi qu'il y a une réticence à la demande d'aide parce qu'ici, on est un grand, grand village, tout le monde se connaît.
Ouais.
Donc, il y a comme une certaine peur, une certaine pudeur à demander de l'aide par peur d'être jugé, par peur que les gens en parlent dans le milieu, etc. Donc, c'est des réalités qu'on voit.
OK. C'est quoi les principaux services que vous offrez?
Les principaux services qu'on donne au regroupement, en fait, il y en a plusieurs, mais je vais tenter de résumer sommairement. On offre en premier lieu du soutien psychosocial, autant individuel qu'en groupe. On fait beaucoup d'écoutes téléphoniques, on offre des conférences, on offre des formations sur différents besoins que peuvent vivre les personnes proches aidantes. On accompagne dans la demande d'aide au CLSC. On accompagne aussi vers les services de répit. Hein, Lucie, je te vois hocher de la tête. Effectivement, Lucie a utilisé énormément de ces services-là lors de son parcours de proche aidant. On accompagne vers toute la mise en place des services de maintien à domicile. On accompagne aussi vers une potentielle relocalisation. On offre aussi mensuellement des cafés-rencontres, on offre des conférences, on offre des activités de type plus social et ludique. On offre aussi des activités où le proche aidant peut être accompagné de son aidé. On offre des activités que pour les proches aidants, mais on offre aussi des activités où l'aidé peut l'accompagner. La Saint-Valentin, on fait un karaoké, on offre un souper théâtre où l'aidé peut venir avec la personne proche aidante. On offre un souper de Noël en novembre où là, l'aidant peut aussi venir avec son aidé. Donc, on trouvait ça important aussi d'offrir une place où le proche aidant peut célébrer le fait que je prends soin de cette personne-là, je l'aime, puis j'ai envie de vivre des activités avec elle aussi. Donc ça, c'est important de pouvoir l'offrir dans notre organisation. Puis je veux aussi mentionner qu'on a 3 points de service. Donc on couvre tout le territoire de la MRC de Lobinière, les 18 municipalités. On va à domicile, on a un point de service à Saint-Patrice, à Lobinière, et nos bureaux principaux à Saint-Flavien.
OK, parfait. Merci Julie.
Ça fait plaisir.
On dit souvent que l'aidance, c'est un parcours solitaire. Comment le regroupement aide les personnes à briser l'isolement, finalement?
De ce côté-là, j'étais seule avec mon conjoint qui était malade et ma famille aurait aimé m'aider. Mais un peu comme beaucoup de personnes dans le Binière, les familles sont un peu partout. Ils sont à la ville, ils sont en train d'étudier, ils sont en train de voyager, ils sont ailleurs. Alors, les services du regroupement des personnes aidantes m'ont beaucoup aidée à aller chercher du répit avec les services du comté, que ce soit Présence Lobinière qui venait de façon bénévole. Alors, j'y allais à petite cuillère pour eux autres parce qu'elles étaient très demandées pour les personnes atteintes de cancer. Et il y avait la coop de services. Alors, ça aide à faire en sorte que là, je pouvais faire autre chose. Je pouvais renouer avec ma vie sociale, quelques amis. On me disait quand même, du côté du regroupement, téléphonez, écrivez. Lâchez pas vos amis, même si vous êtes à la maison ou un peu confinés. Le mot confinement, moi, je l'ai utilisé depuis les 7-8 dernières années de la maladie de mon conjoint. Donc, quand est arrivée la pandémie, mon confinement, moi, je connaissais ça. Alors, c'est ça, c'est confinement et isolement, ça va un peu ensemble. Avec les activités du regroupement, j'ai tout utilisé. Les déjeuners-conférences, les conférences qui étaient ludiques ou encore informatives, formatives pour moi. J'ai utilisé même l'approche psychosociale parce que j'avais besoin d'être soutenue un peu plus. Ça m'a redonné le goût de vivre parce que là, j'étais en train de le perdre.
Ouais.
Ça fait que... Et je revenais à la maison plus de bonne humeur pour mon conjoint. Parce que lui, il était pareil, même ouais. s'il était malade. C'était bizarre. C'était moi qui n'allais pas bien.
C'est demandant, prendre soin de quelqu'un quand même.
Oui.
Faut pas l'oublier ça non plus.
Oui, merci.
Ouais, puis je pense que c'est une donnée très importante, c'est que la personne proche aidante se sent un peu seule dans sa réalité. Puis le regroupement permet ça, quand la personne ose aller vers le groupe, de se sentir moins seule, de se sentir comprise, de se sentir aussi soutenue, ne serait-ce qu'en étant avec des gens qui ont un peu les mêmes épreuves que soi-même. Donc, ça permet ça, là, de se sentir moins seule.
Mm-hmm. Les groupes de soutien. Les groupes de soutien, je les aurais faits après, là, longtemps. Parce qu'il y a beaucoup d'entraide là-dedans. Et avec une intervenante qui nous anime puis qui nous replace un peu la culpabilité qu'on peut éprouver, par exemple. Il nous replace ça, que c'est pas long. Alors, on a besoin de ça. Il faut aller chercher de l'aide. Il faut pas rester seul.
Oh, effectivement. Merci, Lucie, pour ce beau témoignage-là. Quelle est la fausse croyance la plus tenace que vous entendez sur les proches aidants?
Mon Dieu, cette question-là, elle a été facile pour nous parce qu'on l'entend souvent.
Oui.
C'est normal de prendre soin de ta fille, c'est normal de prendre soin de ta mère, c'est ta mère. Même les personnes proches aidantes, ils l'ont intégré, ce discours-là, donc ils se disent « Ouais, mais c'est normal que je prenne soin de lui, c'est mon mari. Ouais, mais c'est normal que je prenne soin de ma mère, c'est ma mère, elle a pris soin de moi, donc c'est vrai qu'on peut penser que c'est normal. » D'où l'ancienne appellation qu'on essaye de faire disparaître, des aidants naturels.
Oui. Hein,
c'est naturel de prendre soin. Mais il y a un moment donné où ça dépasse l'entendement de ton rôle de mère ou de ton rôle de conjointe ou de ton rôle de fille que d'accompagner la personne qui demande des soins. Donc, nous, ça, c'est la croyance qu'on entend le plus souvent. Puis cette croyance-là cristallise les personnes proches aidantes qui auraient besoin d'aide dans leur isolement, comme Lucie le mentionnait tantôt, parce que, ouais, mais j'irai pas chercher de l'aide, tu sais, c'est normal que je prenne soin de... Puis, tu sais, c'est normal ce que je suis en train de vivre. Il y en a d'autres qui le disent, ça doit pas être si pire que ça. Mais à partir du moment où on comprend qu'il y a une différence entre mon rôle de femme et mon rôle de personne proche aidante, bien là, on peut aller chercher de l'aide dans l'angle rôle de personne proche aidante. Vous avez peut-être pas besoin d'aide dans votre rôle de conjointe ou dans votre rôle de mère ou votre rôle de fille. Mais dans votre rôle de personne proche aidante, avez-vous besoin d'aide? Fait que si on réussissait tous ensemble à dénaturer ce discours-là, que c'est normal de prendre soin, bien on serait capable de faire en sorte que les personnes proches aidantes se reconnaissent davantage dans leur rôle de personne proche aidante, donc iraient chercher de l'aide dans cet angle-là.
OK.
Comprends-tu ce que
oui,
je veux
dire? Oui, c'est intéressant. Ça a beaucoup de chapeaux, un proche aidant.
Ça a beaucoup de chapeaux et souvent... on n'est pas juste conjointe ou personne proche aidante, on est aussi employé,
ouais.
On est aussi mère, on est aussi amie, on est aussi sœur, on est aussi tant. Fait qu'on a plusieurs chapeaux. Tous les humains ont plusieurs chapeaux. Donc, oui, c'est normal de prendre soin d'une personne malade, mais est-ce que j'ai besoin d'aide pour le faire dans ce rôle-là particulièrement? Oui. Fait que ça, c'est une croyance qu'on essaie de plus en plus là, de dénaturer, d'épurer pour que vraiment les gens ils viennent chercher de l'aide dans cette optique-là.
Sans nommer de personne, est-ce que vous pouvez nous partager une petite victoire ou une histoire qui illustre un peu l'impact de votre soutien?
J'en suis la preuve.
Oui.
Si vous saviez les conseils qu'on reçoit, là, ils nous sauvent la vie dans le sens, c'est parlez-en autour de vous. Quand quelqu'un nous demande, puis comment ça va? Ah, ça va. Moi, je dis ça va pas. On m'avait dit de dire ça va pas si ça va pas.
Mm-hmm.
Et là, en parlant, j'ai pu dire à ma sœur, t'es en vacances pendant l'été, viendrais-tu m'aider? Alors que je pense que je ne l'aurais jamais demandé parce que, bon, elle travaille toute l'année et puis tout ça. Alors, parlez-en autour de vous. Ça fait en sorte qu'on se sent moins seul. Alors, ça a été magique pour moi. Le fait d'aller au groupe de soutien, le fait d'aller dans les brunch conférences. Moi, j'avais comme livre de chevet le calendrier des activités du regroupement des personnes aidantes. Et puis, j'en parlais avec mon conjoint. Qu'est-ce que tu vas faire là, tu sais? Bien, aujourd'hui, ce sera ça. C'était intéressant parce qu'il me posait des questions. Puis, bon, c'était notre conversation à ce moment-là.
Ben oui, ça l'intéressait aussi.
Oui. Merci au regroupement.
Ben oui. Beaucoup de proches aidants occupent aussi un emploi, comme tu disais tantôt, Julie. Comment votre organisme arrive à aider ces personnes-là, finalement, à jongler avec les deux réalités?
Oui. Dans le fond, c'est de plus en plus dans nos priorités que de tenter de rejoindre ces proches aidants-là qui se retrouvent en sandwich, en fait, entre leur rôle de mère, leur rôle d'employé, leur rôle de proche aidant. Il faut dire qu'il y a quand même 56 % là, des personnes proches aidantes qui se retrouvent dans ce rôle, mais aussi encore en statut d'emploi. Donc, ça demande à ces gens une gymnastique assez particulière. On leur offre un accompagnement personnalisé, adapté à leur agenda de premier ministre. Comme par exemple, là, de façon générale, dans notre historique, on était ouvert de 8 heures à 16 heures. Maintenant, on a vraiment développé une adaptation au niveau de l'agenda, au niveau de l'horaire pour tenter de rejoindre ces personnes-là en offrant des groupes de soutien, par exemple, en soirée, en offrant des activités en ligne qu'on sait plus rapides, plus efficaces si on veut, moins d'engagement de temps, etc. Donc, on a aussi mis en place là, certains outils pratiques pour les aider dans leur organisation du temps et de leur énergie. On va aussi leur permettre de participer à nos activités ou de se dégager du temps pour eux en leur rendant l'accès facile pour les services de répit. Et on a aussi comme priorité de sensibiliser ces personnes proches aidantes-là aux différentes mesures, dans le fond, qui pourraient favoriser leur bien-être en emploi, favoriser une meilleure conciliation dans leurs différents rôles. Et on se donne aussi comme mission de sensibiliser les employeurs en allant à leur rencontre pour parler de proche aidance, hein, parce que c'est encore un sujet qui est un peu méconnu. Puis c'est pas facile pour le proche aidant d'ouvrir le dialogue toujours avec l'employeur, hein, de peur que ça ait une connotation de moins efficace ou de moins performant. Donc on les accompagne en allant, c'est ça, les voir. Entre autres, on va entamer une tournée là, dans les organismes communautaires pour parler de mesures de conciliation, voir comment l'employeur et l'employé pourraient faire le petit pas de plus là, pour permettre à ces employés-là de maintenir leur emploi principalement puis de se sentir en équilibre là, dans ces sphères-là.
OK. Intéressant. On sait que la culpabilité est un des freins à la demande d'aide. Comment est-ce que vous abordez cet aspect-là finalement avec les gens qui viennent vers vos services?
Bien, en fait, tantôt, Lucille l'a nommé, hein, dans ce qu'elle a vécu dans son propre parcours de proche aidant, l'apparition de la fameuse culpabilité. Puis c'est vrai que c'est un thème qui est récurrent en proche aidance. Puis d'ailleurs, c'était le thème de notre dernière conférence en janvier dernier au calendrier. On en parle à chaque année. On en parle dans les cafés-rencontres, on en parle en groupe de soutien, on en parle en intervention individuelle parce qu'effectivement, ça fait partie des freins à la demande d'aide et surtout, c'est un frein à l'acceptation de la mise en place des services pour que la personne proche aidante prenne soin d'elle. Parce que la personne proche aidante, elle, d'après son discours et ses croyances qui l'habitent, « Ouais, mais moi, je suis pas malade. Pourquoi je prendrais soin de moi? C'est lui qui est malade. » Donc là, la culpabilité émerge. « Ouais, mais pourquoi je prendrais du répit, tu sais, pour prendre soin de moi, pour aller magasiner, tu sais? » Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
C'est ça. Fait que la culpabilité émerge souvent d'un conflit de valeurs qui s'installe entre prendre soin de moi ou prendre soin de l'autre. Nous, ce qu'on essaie de faire en intervention, en conférence, en groupe de soutien, c'est prendre soin de moi et prendre soin de l'autre. Donc, de dénaturer un peu cette croyance-là qui viendrait atténuer la culpabilité. C'est quand même difficile pour tout le monde d'éliminer la culpabilité. Donc, nous, on l'adresse beaucoup plus en disant, on va tenter de l'atténuer puis d'atténuer ses impacts. Vous allez continuer à en vivre, oui, mais le conflit de valeurs va être beaucoup moins intense.
Okay.
Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, surtout au regroupement, par rapport à cette culpabilité-là. Il y a beaucoup d'autres sujets là, qu'on adresse, mais là, tu nous demandes la culpabilité.
Ben oui, je comprends.
Et oui, c'est vrai que c'est un frein à la demande d'aide, mais aussi à l'acceptation de la mise en place des services pour le proche aidant.
Oui, je comprends. J'ajouterais peut-être, si tu me permets, que je pense que le fait de faire le premier pas, de venir au regroupement, c'est certain que les intervenants vont rapidement reconnaître la valeur du rôle, hein, parce que c'est quand même très important ce qu'ils vont assumer auprès de leurs proches. Puis je pense que le fait de reconnaître leur rôle eux-mêmes, là, ça permet de normaliser là, mm-hmm. le besoin de soutien. Ça leur permet aussi de croire que de demander de l'aide, c'est responsable et non pas un geste de faiblesse.
Ouais.
On a vraiment quelque chose là, le fait d'accepter que ce rôle-là, en fait, demande quelque chose de plus, là. T'sais, prendre soin de son conjoint, c'est pas quelque chose qui est normal, si on veut. Là. T'sais, ce que je veux qu'on retienne de mon intervention, c'est ça, c'est que la valeur de leur rôle, quand ils le reconnaissent, ça permet vraiment de se permettre de demander de l'aide, d'accepter ça.
Tu comprends? Ouais.
Merci. Bon. Est-ce que je peux ajouter un petit quelque chose? Quand on demande de l'aide, des répits, à ce moment-là, ça m'a permis de rester conjointe de mon homme et non pas toujours la soignante.
Oui,
ouais, c'est important ça aussi.
Alors, le regroupement m'a aidée dans ce rôle-là. Puis c'est ça que je voulais, parce que je voulais rester sa conjointe. C'est ça que je voulais.
Oui,
je comprends. Alors, regroupement nous aide là-dedans.
Oui. Merci, Lucie. C'est un point important.
Mais hein.
Est-ce que vous accompagnez aussi des gens lorsque le rôle d'aidant est terminé?
Absolument. Le regroupement a mis sur pied des groupes de post-aidance. Qu'est-ce qui nous arrive quand la personne n'est plus là? Parce que il y a le deuil, bien sûr. Il y a l'hébergement ou encore un autre événement qui fait qu'on ne prend plus soin de la personne aidée. Alors, il faut se retrouver, il faut se reconstruire, il faut refaire partie de la société. Alors, ces groupes-là sont aidants, et ça le dit. Ça nous aide à nous repéper puis à penser un peu plus à nous. Et on a droit à ça.
Oui.
Ça me fait penser aussi quand, dans l'avion, là, la personne qui doit prendre soin de quelqu'un doit mettre l'oxygène en premier. Ben c'est le regroupement des personnes aidantes fait ça aussi lorsqu'on prend soin. Et le regroupement se préoccupe aussi de nous après un deuil ou un hébergement ou un autre placement, par exemple.
OK. Merci, Lucie.
J'aimerais rajouter, Véronique, qu'au-delà du groupe de post-aidance, on offre aussi de l'accompagnement individuel.
Oui.
Okay. Fait que quand on a intervenu dans une famille ou auprès d'un proche aidant pendant 5, 6, 8 ans, bien, c'est pas parce que la personne aidée décède ou on fait la cessation de soins qu'on prend plus soin du proche aidant. Non, on continue par la suite, tant aussi longtemps que le proche aidant va avoir besoin de soutien. Et souvent, ce dernier s'envole de par lui-même après 2-3 ans. Donc, tu sais, cette espèce d'espace de transition-là qui va juste permettre d'être enveloppé puis d'être soutenu encore quelques mois, quelques années, bien ça, on l'offre aussi. Mais il faut savoir qu'on ne fait pas de l'accompagnement au deuil particulier, c'est-à-dire que si tu viens chez nous pour une situation de deuil, bien, il faut que tu aies été membre chez nous. Sinon, l'organisme Présence Lobinière offre ce service-là. Fait que c'est important de faire la distinction entre « Ouais, mais vous faites du deuil, mais Présence Lobinière aussi. » Non, c'est pas ça. Nous, on accompagne notre membre qui a été membre chez nous et qui vit maintenant une situation de deuil. Donc, on enveloppe tout ça dans tout son parcours de proche aidant qui inclut la post-aidance. Donc, ça, c'est important là, d'en faire la distinction.
Oui, je comprends, parce que dans le fond, le deuil fait partie du processus, mais
tout
il n'y a pas que le deuil.
Il n'y a pas que le deuil.
La personne, ça prenait quand même une grande partie de sa vie.
Exactement.
D'être avec l'aidé.
Ouais. La couleur du deuil en post-aidance est différente qu'un deuil normal. Elle n'est pas plus, elle n'est pas moins, elle est différente. Fait que nous, on l'adresse de cette façon-là.
Ouais. Je comprends. Merci. Si vous aviez un message à adresser à une personne de Lobinière qui s'occupe d'un proche puis qui commence à être fatiguée, ce serait quoi?
Vous n'êtes pas seul. Alors, il y a des personnes autour de vous, dans le comté, qui travaillent fort pour pouvoir nous sortir de cet isolement-là. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir bien soigner l'autre. C'est comme ça que je vois encore le regroupement des personnes aidantes. Demander de l'aide, c'est vraiment être responsable. C'est Catherine a dit tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est être fort aussi.
Sans vouloir être alarmiste, mais je pense que c'est une donnée, en fait, qui pourrait parler en même temps que shaker la personne proche aidante qui hésite à demander de l'aide. Bien, malheureusement, parfois, c'est l'aidant qui va mourir avant sa personne aidée à force d'avoir pilé sur ses besoins à lui. Pour X raisons, en fait, on n'est pas là pour juger là, quoi que ce soit, mais ça reste que c'est un rôle qui va user prématurément une personne, puis cette personne-là qui a peut-être elle-même des problématiques de santé, ça pourrait accentuer sa dégradation de santé si on veut que d'assurer ce rôle-là sans support. Okay. Alors, on vous le dit, venez nous voir, ça fait pas mal, on respecte votre rythme, donc c'est important de le savoir.
Merci Catherine. Est-ce que vos services sont gratuits? Puis comment une personne peut faire le premier pas vers vous finalement?
Oui, Véronique, tous nos services sont gratuits, autant les conférences que l'intervention individuelle de groupe. Souvent, les prochains aidants, ils veulent nous donner un petit vin après une intervention ou combien je te dois, ou tu sais, tous nos services sont gratuits. Quand on charge quelque chose, c'est vraiment parce qu'on a une activité où là, on a un repas. C'est-à-dire que là, on doit défrayer les coûts du traiteur. Mais nous, on ne fait aucun profit. C'est la seule place là, où je dirais où les personnes proches aidantes doivent débourser quelques sous. Et les gens peuvent faire leur premier pas de toutes les façons possibles, en fait. Hein? Aujourd'hui, il y a comme 1000 façons d'entrer en contact avec un organisme ou avec les intervenants. Autant par téléphone. Est-ce que tu veux que je te donne notre numéro?
Ben oui,
vas-y. Envoie donc 418-728-2663. On a même un numéro sans frais là, pour tout ce qui est du territoire du secteur sud, Saint-Narcisse, Saint-Sylvestre, Saint-Patrice. Ouais. Donc, c'est le 1-833-728-2663. C'est important de le dire quand même là, pour ne pas avoir des frais d'interurbain. Donc, c'est ça, par téléphone, par courriel, à partir de notre site web, sur Google, vous écrivez simplement « Regroupement personnes aidantes Lobinière », on sort en premier. Notre page Facebook, on a une page Instagram aussi. Donc, par ce biais-là des réseaux sociaux, on peut aussi nous envoyer des messages à ce moment-là. On peut même venir directement dans nos bureaux à Saint-Flavien.
Okay.
On est ouvert de 8h à 16h30. Fait que des fois, souvent, en fait, on a des gens qui débarquent au bureau sans s'annoncer. « Ah, je passais dans le coin. Ah, il y a ma chum, elle m'a dit que… » Donc là, les gens arrivent. On est content d'accueillir des gens au bureau. Souvent, des petites interventions improvisées comme ça qui fait que la personne s'est décidée un matin à venir demander de l'aide. Donc, ça ressemble à ça, là, les façons là, pour nous rejoindre.
En plus, ils sont chaleureux au bureau. On dirait une petite maison.
C'est fin, ça!
Venez voir ça!
Hey, mais venez nous voir!
Puis on est une équipe de 6 personnes dévouées, attitrées aux personnes proches aidantes. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter juste à venir à notre rencontre, qu'on fasse connaissance, le lien se crée. Alors, à ce moment-là, ben on avance au rythme de la personne proche aidante sur son parcours. C'est adapté à ses besoins. Donc, c'est à la carte. Elle prend ce qu'elle veut. Elle veut rien. Elle prend rien. Elle veut tout. Elle prend la totale. Fait que notre site web est un bon moyen. Mais même notre page Facebook, là, pour consulter un peu qu'est-ce qui se fait au regroupement, parce que les activités y sont annoncées. Donc, faut pas hésiter, là. Puis si jamais, pour vous, proche aidant travailleur qui êtes de 8 à 5 bien occupé, ne pas hésiter à communiquer avec nous. On pourra s'adapter puis vous offrir une plage horaire de soirée et même de fin de semaine si ça peut faciliter votre accès au service.
Super. Je vous entends depuis tantôt parler de belles choses que vous faites, de l'impact que ça a eu pour, entre autres, Lucie. De quoi vous avez besoin en ce moment pour continuer ce beau travail-là, finalement, qui rend service à tant de gens?
Bien, je pense pas que je vais vous surprendre en vous disant qu'on a besoin de financements adaptés à notre mission. Les besoins sont grands, la population, elle est vieillissante, on n'a pas besoin d'une boule de cristal pour savoir qu'il y aura de plus en plus de personnes proches aidantes dans le besoin, dans notre communauté. Donc, c'est sûr que le financement adéquat à notre mission de la part de nos gouvernements serait notre besoin numéro un. On a subi des coupures l'an passé qui ont un impact direct sur un poste clé dans notre organisation, / sur des services aux personnes proches aidantes qui n'y auront plus accès de façon aussi immédiate. C'est ce qu'on aurait besoin en premier lieu. En deuxième lieu, c'est sûr que notre vie associative est en santé grâce à une équipe de bénévoles qui sont des sentinelles, qui vont communiquer avec nos membres pour les inviter personnellement à nos activités. Donc, c'est sûr que la vie associative, le bénévolat, va rester un enjeu constant dans les organismes communautaires. Puis une visibilité, parce qu'il y a encore des personnes proches aidantes qui auraient intérêt à nous connaître et qui ne nous connaissent pas encore. Donc, une bonne visibilité, de l'argent, on va être en affaires.
Puis si une personne veut faire un don pour contribuer à votre mission, où est-ce qu'elle peut le faire?
Directement sur le site web, dans l'onglet « Faire un don », tout simple.
Bien, merci à vous trois.
C'était vraiment une belle discussion. C'était vraiment le fun.
Merci Véronique.